5 décembre. La visite de Bellange me fait songer à une scène qui s'est passée à Nice peu avant notre départ, scène aussi ridicule que celle du glacier. Nous étions, Madeleine et moi, en train de nous promener sur la jetée lorsque nous avons rencontré le comte. Elle ne l'avait pas oublié. Chaque fois qu'elle était sortie, elle avait pensé à lui, elle avait préparé ce qu'elle dirait si le hasard les mettait face à face. En nous voyant, il s'approcha, et le plus simplement du monde, comme il eût fait avec une vieille dame, c'est-à-dire sans paraître vouloir rester, il dit « Ne trouvez-vous pas ce temps délicieux ?» Cela sans dire bonjour, sans risquer le moindre témoignage de politesse. « Délicieux, monsieur !» répondit Madeleine en regardant la mer toute bleue où se mouvaient quelques voiliers. Bellange continua. Cela fait naître le désir de se promener en mer, de se mêler encore plus intimement aux éléments. « C'est tellement beau !» répondit Madeleine, mais sur un ton forcé. Car bien qu'elle parlât toujours de beauté, qu'elle s'extasiât devant les fleurs, devant les jardins et les villas, elle était en réalité complètement insensible à la beauté. Cette contemplation faisait partie de l'attirail d'une jeune et jolie femme, et il faut voir avec quel mépris elle traite ceux qui sont insensibles à l'art, aux teintes pastel du ciel. Elle n'a pourtant d'intérêt que pour ceux qui a été découvert par les touristes, que pour ceux qui suscitent des excursions, des caravanes, et plus il est coûteux et difficile de se rendre à un endroit, plus le site est admirablement sauvage et grandiose. Car si raffinée qu'elle veuille être, la beauté ne peut être pour elle que sauvage. Le comte nous accompagna en s'excusant de le faire par ces mots. « Puisque vous allez jusqu'au casino, je vais faire un petit détour. » Madeleine était enchantée. Bellange, qui a une autre femme, m'eût dit, s'il l'avait senti nécessaire, que le pays l'écœurait par son côté opéra-comique, comme si c'était venu de lui, alors qu'il avait entendu cette comparaison 100 fois, c'est-à-dire en trouvant naturel le rire qui eût accueilli sa remarque, auprès de nous ne fit que se répandre en admiration. Pourtant, il voulut placer son opéra comique. Il y avait une foule d'expressions de ce genre qui lui plaisaient et dont il émaillait sa conversation, comme en parlant d'une villa, « Cela fait très chalet suisse », ou en parlant d'un petit square de la place Masséna, « Cela fait très Tuileries en miniature ». Il dit donc, « Ne trouvez-vous pas que ce pays fait, en plus beau naturellement et en vrai, très décor d'opéra comique ?» Madeleine acquiesça en souriant par politesse. Elle était complètement insensible à ce genre d'esprit. Elle ne comprenait pas le sens des mots lorsqu'on les plaçait dans des acceptations où elle n'était pas habituée à les voir. Le fait de dire que ce pays faisait très opéra comique lui semblait d'une part élégant, et en même temps lui causait, sans qu'elle pût dire pourquoi, une impression de frivolité. Et c'était justement ce dont elle avait le plus horreur, la frivolité. D'un seul coup, le comte lui parut plus étranger, et malgré elle, elle fut mise en défiance. Bellange, pour la première fois, ne s'aperçut de rien. Arrivée au bout de la jetée, Madeleine manifesta le désir de s'asseoir, elle l'avait dit dès le commencement. Le comte chercha des fauteuils. Alors Madeleine le regarda, mais ne s'assit pas, faisant une moue qui signifiait que le fauteuil qui lui était réservé était mal calé. Le comte immédiatement le remit d'aplomb. Il resta lui-même debout, voulant montrer qu'il n'avait pas oublié qu'il avait dit qu'il ne faisait qu'un petit détour, et ne pas avoir l'air de se croire autorisé, du seul fait qu'il avait fait quelques pas avec nous, à s'asseoir tout de suite. Madeleine eut alors le sentiment de n'avoir pas été à la hauteur de la situation. Comme le jour où le maître d'hôtel avait refusé son aide, elle éprouva la sensation la plus déprimante qu'elle put ressentir, celle d'offrir ce qu'on refusait, car en s'asseyant, elle n'avait pas pensé une seconde que le comte pût ne pas l'imiter. Elle faillit se relever, puis, pensant que cela eût semblé ridicule, elle dit en se forçant à sourire « Mais asseyez-vous donc, monsieur !» Ce qui, aux yeux de Bellange, était la preuve qu'elle n'avait pas remarqué sa finesse. Pour ces raisons, il dut croire que pour l'avenir, il n'aurait pas à prendre tant de précautions. Cela le rendit plus audacieux, car le comte, au commencement de toute liaison, est une perfection de délicatesse. mais il ne le demeure pas. Il ne faut être délicat qu'en tant qu'on le remarque. Aurait-il affaire avec un être grossier qu'il finirait par devenir grossier? Comme beaucoup de femmes, Madeleine croit aux honneurs que lui rendent les hommes. Elle voulait être digne des hommages du comte. Il était près d'elle et lui parlait à voix basse, de sa voix dont il se vantait, ce qui, par l'imprévu et la rareté de cette vantardise, semblait lui ajouter de la distinction. C'était déjà un plan plus élevé, puisqu'il n'était plus question de jolis cheveux, mais de voix chaude. Elle, qui jamais ne faisait la coquette, elle qui ne savait le faire, elle commençait à minauder, car elle ne voulait pas qu'il pensât du mal d'elle, ni qu'il regrettât d'avoir passé un instant à son côté. Au bout de quelques minutes, il lui demanda à quel hôtel nous étions descendus. C'était ce qu'elle appréhendait. Elle répondit, dans un petit hôtel, parce qu'elle avait en horreur le vacarme et qu'elle était venue pour ne voir personne et se reposer. Mais tout à coup, elle s'interrompit et rougit. Je la regardai étonnée. Elle baissa la tête. J'aperçus alors Madame Laferrière qui venait vers nous, mais ne nous avait pas encore vus. C'était une des pensionnaires de Mademoiselle Davis. Nous avions déjà parlé plus d'une fois à cette ancienne danseuse. Madame Laferrière était encore très coquette. Elle avait eu, paraît-il, son heure de célébrité dans la société parisienne d'avant-guerre. Elle portait d'énormes bijoux dès le matin et se maquillait comme une actrice. Elle aimait à se lier avec des jeunes femmes pour les plaindre. Elle semblait comprendre tous leurs ennuis parce qu'elle les avait connus également. Elle se donnait des allures de douairière, parlant sans cesse de son appartement trop grand pour elle seule, des œuvres de bienfaisance dont elle faisait partie, de domestique. Ainsi, en même temps qu'elle s'était liée avec Madeleine, elle avait interrogé tout le personnel de la pension, proposé à l'un et à l'autre de les prendre à son service. Elle avançait vers nous à petits pas, accompagnée par un autre pensionnaire, Joseph Courbet. Nous le connaissions également. C'était un homme de l'âge de Madame Laferrière. Il avait pour cette dernière un profond respect. Toute sa vie, il avait travaillé dans une banque du boulevard des Italiens pour se retirer finalement à Grenoble. Son seul plaisir dans la vie était de venir passer chaque année 3 mois à Nice, ce qu'il s'était convaincu être excellent pour sa santé. Or, depuis qu'il avait pris sa retraite, il avait commencé à découvrir la vie. Il se plaisait à répéter maintenant que s'il avait su, il n'aurait pas gâché son existence ainsi et qu'il aurait fait le tour du monde. D'avoir vécu à l'écart pendant 30 ans faisait qu'à présent, il éprouvait un grand plaisir à découvrir ces 30 années qu'il n'avait pas connues à travers les racontards de relations comme Madame Laferrière, qui, elle, avait vécu librement. Et quand il apprenait par elle ses réceptions, les événements mondains auxquels elle avait assisté, il écoutait, ravi, croyant revivre le temps perdu, connaissant ainsi après coup ce qui aurait dû être sa vie, ce qui était une sorte de compensation. Ils approchaient tous deux à petits pas, sans parler. De temps à autre, Madame Laferrière, de sa canne, désignait les derniers étages d'un grand hôtel, car elle était descendue dans tous ces lieux, et c'était avec contentement qu'elle faisait revivre pour Courbet, en même temps que pour elle, un passé mort. Madeleine était pâle. Elle redoutait que ces vieilles gens ne s'arrêtassent, ne nous parlassent, surtout Madame Laferrière, qui n'eût pas manqué de s'adresser au comte de Bellange comme à un de ses amis. Ils approchaient toujours. Le comte, les jambes croisées, s'était tu. Alors qu'il avait à peine parlé, il avait, en regardant la mer, l'attitude d'un homme qui, lassé par une longue conversation, prend un instant de repos avant de repartir sur un autre sujet. Il voulait ainsi inspirer confiance à ma femme. Il voulait montrer qu'il n'était pas l'homme qui se lance sur sa proie en parlant sans interruption, mais au contraire, le rêveur qui se tait quand il n'a rien à dire. Le couple approchait. Madeleine baissa encore davantage la tête. Mais au même moment, Bellange lui posa une question, au moment où justement le couple passait devant nous. Madeleine eut alors nettement l'impression que si elle ne répondait pas, ce serait étrange, non seulement aux yeux de Madame Laferrière et de Courbet, qui en conclurait qu'elle ne voulait pas les voir, mais aux yeux du comte, ce qui était plus grave. Quand Madeleine rougit de connaître certaines personnes, elle commence par être inquiète, gênée. Puis, brusquement, elle pense qu'elle est bien bête de se faire du souci pour autrui. Elle se ressaisit alors, et, comme si pas une seconde elle n'avait été embarrassée, elle devient enjouée, confiante. Elle leva les yeux, et en regardant les vieilles gens, mais sans paraître les reconnaître, elle éclata de rire aux propos que lui tenait le comte. Madame Laferrière et son amie avaient continué leur chemin. Quelques secondes après, en regardant dans leur direction, j'aperçus la vieille dame qui nous désignait à son compagnon du bout de sa canne. 7 décembre. Aujourd'hui, j'ai appris que Chambige était compromis dans une affaire de spéculation, ce qui m'a plongé dans une inquiétude terrible. Dans un livre que j'ai eu l'occasion de feuilleter, il est question de sujets que tout bon auteur dramatique doit connaître. Il en est un notamment qui m'a frappé, celui de l'homme ayant commis une faute de jeunesse et ayant un témoin de cette faute. Il aime une femme, il va être heureux. Il s'est fait une vie agréable lorsque paraît celui qui sait. Sous peine de tout dire, celui-ci lui demande de l'argent. Il s'apaise devant une certaine somme. Puis, comme le coupable se croit tranquille et oublié de nouveau, le maître chanteur reparaît. Il devient de plus en plus exigeant. Je suis cet homme pour certains. Je sais, par exemple, que Paul D., il y a 10 ans, est venu chez moi affolé me dire qu'il avait contracté une maladie terrible avec une femme. Je lui remontais le moral. Il parlait de se suicider. Je l'ai conduit chez un docteur de mes amis. Maintenant, il est guéri. Il n'a plus qu'à se faire donner des soins de temps à autre afin que le mal ne reparaisse plus. Mais je sais qu'il ne l'a pas dit à sa femme. Il le lui cache avec un soin extraordinaire. Cet homme n'est certainement pas heureux. Quelquefois, je le rencontre avec sa femme. Il fait peine à voir. Il vit dans la peur continuelle qu'elle n'apprenne sa maladie, qu'elle ne se détourne de lui, dégoûtée. Il l'adore et ce serait pour lui quelque chose d'effrayant. Je connais un autre secret d'un homme également marié. Au cours d'une rafle dans un hôtel, il a été surpris dans des conditions dont j'aime mieux ne pas parler. Après avoir pris son nom, les policiers l'ont relâché. Atterré, il m'a avoué ce qui s'était passé, me demandant si cela se saurait, si on allait prévenir sa famille, comme il avait entendu dire qu'on le faisait. Je l'ai rassuré en lui disant que ce n'était qu'en cas de récidive qu'on prévenait, ce que j'ignore, mais simplement pour le rassurer. Or, on n'a pas prévenu sa femme. Les années sont venues et je reste le seul à connaître cette malheureuse aventure. Quand il m'arrive de rencontrer ces deux hommes, ils sont avec moi d'une amabilité extraordinaire. Nous ne parlons jamais de ce qui s'est passé. Je crois même qu'ils s'imaginent que j'ai tout oublié. Il m'est arrivé d'être invité chez eux et de passer une soirée entière en compagnie de leur femme. Cela avait quelque chose de pénible, d'effrayant, surtout quand les femmes, par de petits rires, laissaient sous-entendre qu'elles connaissaient leur mari mieux que moi. Je n'ai point besoin de dire que j'aimerais mieux mourir que de trahir de tels secrets. Ce que je suis pour eux, il y a un homme, à ma connaissance, qui l'est pour moi. Je ne crains aucun chantage de sa part, mais ce que j'appréhende, c'est qu'il n'ait raconté ma faute à d'autres personnes et que parmi ces dernières, il s'en trouve un jour qui vienne tout dire à Madeleine. Voici ce qui s'est passé. À 20 ans, ma plus grande ambition était d'avoir de l'influence sur autrui, de dominer grâce à des conversations quotidiennes de plusieurs heures, de réussir à prendre de l'empire sur des êtres faibles à qui je faisais faire tout ce que je voulais. J'aimais alors une jeune fille. Il est arrivé à tout le monde d'obliger un ami à faire une chose que l'on désire, tout en sachant qu'elle sera nuisible par la suite. Je n'avais pour vivre que la modeste pension que m'envoyait mon père. Pourtant, chaque jour, pendant des mois, je suppliais Lucienne de quitter sa famille et de venir vivre avec moi. Je lui faisais entrevoir une vie magnifique. Et plus elle refusait, plus j'insistais, usant de tous les procédés, la menaçant, comme mot jadis, de rompre si elle ne se décidait pas. Or, un jour, elle céda. J'en fus abasourdi. Bientôt, nos difficultés pécuniaires furent telles que j'exigeais qu'elle retournât dans sa famille ou bien qu'elle demandât des subsides à son père. Elle ne le voulut pas. Alors je lui rendis la vie impossible, la menaçant de fermer la porte le soir, étant avec elle d'une cruauté dont aujourd'hui j'ai honte. Finalement, affolée, un jour elle ne revint plus. Malgré toutes mes recherches, je ne pus la retrouver. S'était-elle donné la mort? Était-elle partie pour l'étranger avec le premier venu? Je ne savais pas. Or, un matin, je reçus la visite de son père. C'était Chambige. Je ne sais pas comment il avait appris mon adresse, mais il m'avait découvert. Il me demanda où était Lucienne. Ce fut à ce moment que la chose devint grave. Au lieu de dire la vérité, j'eus subitement peur et je mentis. Je lui dis que Lucienne m'avait suivi de son plein gré, mais qu'elle avait rapidement eu assez de la vie que je lui avais faite à cause de son amour du luxe et qu'elle m'avait abandonné pour un monsieur très riche. Le père me regarda avec un mépris dont je me souviendrai toujours. Il tira de sa poche un carré de papier et me le lut. C'était une lettre de Lucienne. Elle racontait tout ce qui s'était passé, ma cruauté, combien je l'avais fait souffrir. Elle demandait pardon à son père du chagrin qu'elle lui avait fait. Cette lettre était d'une détresse infinie. Le père se mit à pleurer, mais sans se départir de sa colère. À un moment, je crus que nous allions nous battre, car il s'était approché de moi et me tenait par une épaule, me secouait sans que j'osasse faire un mouvement, à cause du respect que son âge m'inspirait, à cause aussi que je me sentais tellement coupable. Il était désespéré. Que sa fille fût venue vivre avec moi n'était rien à côté de ce qui venait d'arriver. L'impuissance où il était de ne pouvoir se venger le rendait fou. Finalement, il s'en alla, mais en prononçant ces mots, « Bandit que vous êtes, je garde cette lettre. Elle vous suivra toute votre vie. Elle est longue, la vie, et vous verrez que vous le regretterez, que je me vengerai. Tout le monde saura ce que vous avez fait. Aucune femme ne voudra de vous, vous m'entendez, quand on saura ce que vous avez pu faire à une innocente, car ma pauvre enfant, vous l'avez tuée, j'en suis certain. Vous l'avez tuée, assassin que vous êtes !» En même temps que je maltraitais Lucienne, je dois dire que je l'aimais de tout mon cœur. Dès qu'elle n'était plus près de moi, je pensais à elle et j'étais tenaillé par la jalousie. Mais dès qu'elle paraissait, il se passait ceci d'étrange en moi qu'il me fallait la martyriser. C'était plus fort que moi, et quand, au bout de peu de temps, je parvenais à la faire pleurer, j'étais incapable d'avoir un beau geste, de la réconforter. À cette époque, il y avait alors en mon cœur quelque chose de monstrueux, d'une dureté extraordinaire. Je me souviens à ce sujet d'une histoire qui montrera à quel point j'étais dur en apparence. Au lycée, j'avais frappé un jour un camarade si malencontreusement qu'il s'était blessé assez gravement en tombant. Conduit chez le directeur, j'avais 14 ans, on me mit devant les fêtes. On me demanda de manifester du regret, grâce à quoi l'affaire serait oubliée. Cela, je ne voulais jamais le faire. Pendant une heure, trois professeurs, le directeur et une femme qui s'était jointe à eux me harcelèrent pour me faire regretter, mais je demeurai de pierre. À bout de patience, on m'enferma dans une courette. À peine fus-je seul que j'éclatai en sanglots, mais non point d'une manière banale. J'éclatai en sanglots et cela dura 3 heures. Pendant ce temps, je restai insensible à tout, uniquement en train de pleurer, le corps secoué de frissons, si bien qu'à la fin, quand je m'arrêtai, je n'étais plus capable de me tenir sur mes jambes, je tombai à terre et on dut me transporter chez mes parents, absolument comme un moribond, ce qui était ma vengeance en quelque sorte, car je me souviens que, malgré mon état, je discernais bien l'ennui des professeurs. À la suite de cette histoire, je restai 4 jours alité et je ne retournai au lycée que 15 jours après. On peut se rendre compte qu'avec une telle dureté de caractère, ce que je faisais supporter à Lucienne me semblait peu de chose et combien j'avais de force pour ne pas lui montrer ce qu'au fond je ressentais. En outre, Lucienne était très sensible. Le fait d'avoir quitté sa famille l'avait rendue inquiète, craintive. Elle ne parlait presque plus. Elle était devenue veule et comme privée de volonté. Continuellement, je lui reprochais cette mollesse qui ne faisait que s'accroître sous mes reproches. Elle en était à ressembler à une bête battue. Elle n'osait plus rien dire, plus rien faire, tellement elle craignait que je ne m'emportasse, si bien que je m'emportais parce qu'elle n'agissait plus. Et plus je la dominais ainsi, plus je la folais, plus je sentais naître en moi une profonde satisfaction. J'éprouvais le besoin de faire d'elle une esclave, un être qui n'eût plus la moindre personnalité. Un jour pourtant, peu de temps avant sa fuite, elle se rebella. Dire dans quelle stupeur d'abord, puis dans quelle colère cela me plongea, est impossible. Je restai un instant pâle et étonné. Puis, brusquement, je me mis à l'injurier. Son impassibilité apparente m'excitait de plus en plus, si bien que mes paroles devenaient de plus en plus violentes. Je devais me pincer, me tordre les doigts pour résister au besoin que j'avais de la frapper. J'étais blême de rage et impuissant à trouver des paroles plus injurieuses que celles que j'avais dites, tellement j'avais déjà crié, si bien que cela augmentait encore ma fureur. Et elle demeurait toujours impassible. Soudain, elle n'éclata pas en sanglots, mais eut une crise nerveuse. C'est cruel à rapporter, mais dire le soulagement que je ressentis alors est aussi impossible. C'était, devant ce pauvre corps agité de convulsions, comme si une douche tiède venait de m'inonder et de me détendre les nerfs. Tout s'éclairait autour de moi, tout prenait du relief, je revivais. Alors, brusquement, je cessai de parler et, sans la moindre tendresse, à la manière d'un étranger, je la mis sur le lit et lui frictionnai les tempes avec de l'eau fraîche. J'étais calme et froid, et surtout préoccupé de cesser mes soins au moment où elle pourrait s'apercevoir que je lui en donnais. Voilà quel a été ce misérable amour. Pourtant, je ne crois pas que je sois méchant. Tout cela, c'était de l'orgueil, de la dureté de jeune homme. Je l'aimais, et comme preuve de cet amour, je veux simplement citer ce fait. Il arrivait qu'en dormant, Lucienne prononça des phrases entières. Elle rêvait chaque nuit d'une foule de choses, et le matin, elle se souvenait de tout. Une nuit que je ne dormais pas, je l'entendis dans son sommeil prononcer ces paroles. « Non, non, vous n'êtes pas gentil. Je vous assure, monsieur, que je le soignerai bien. D'ailleurs, il me connaît mieux que vous. » Elle parlait d'un chat noir. « Vous n'aurez jamais la patience de l'élever. Il faut leur donner leur lait régulièrement, sans quoi ils meurent. « Laissez-le-moi, je vous en supplie. Si vous l'emportez, il va être malheureux. Il m'aime tellement. Non, non, je vous en supplie, laissez-le. » Je compris qu'elle rêvait qu'un inconnu voulait lui prendre un chat, qu'elle s'imaginait posséder, et qu'elle souffrait de cette séparation, comme sans doute, et c'était la cause probable de ce rêve, elle supposait que son père souffrait. Puis, tout à coup, elle poussa des petits cris de douleur. Alors j'eus pitié d'elle. Je me levai sans bruit. Dans l'hôtel où nous habitions, il y avait justement un chat. Je mis mon pardessus et dans l'escalier obscur, je partis à la recherche du chat. Mais naturellement, je ne le trouvais pas. Je montai jusqu'au sixième, regardai dans toutes les encoignures en m'éclairant avec des allumettes. Puis je descendis jusqu'au rez-de-chaussée. Tout le monde était couché. Pourtant, je vis, à travers la porte du bureau, une faible lumière. La femme de chambre qui prenait la garde cette nuit-là m'ouvrit. Le chat était avec elle. Je l'emportai, remontai dans notre chambre, fermai doucement la porte et me recouchai. Lucienne dormait paisiblement. Je la réveillai doucement et lui montrai le chat qui ronronnait. Elle ne comprit pas tout de suite, puis, se souvenant de son rêve, eut dans son visage un éclair de joie qui me causa un grand bonheur. Cette histoire est peut-être ridicule, mais il me semble que c'est vraiment par amour que je suis parti ainsi la nuit à travers l'hôtel à la recherche d'un chat. Après le départ de Chambige, je vécus des heures terribles. Longtemps, j'eus le sentiment que mon bonheur était entre les mains de cet homme et que, le jour où il voudrait, il pourrait le rompre. Ce n'est que quelques années plus tard que, tout à fait par hasard, j'appris que Lucienne était mariée et heureuse. Notre aventure m'avait laissé un souvenir pénible. Or, aujourd'hui, alors que cette histoire est oubliée depuis longtemps, elle date de 15 ans, je me sens tout à coup aussi inquiet qu'au premier jour. En lisant le journal, ce matin, j'ai appris que Chambige était sur le point d'être arrêté. Toute ma tranquillité s'est envolée. Il me semble qu'il va surgir d'un moment à l'autre chez moi, que, pour ne pas sombrer seul, il va tout dire à Madeleine, faire du scandale, raconter même à ses juges, pour montrer la beauté de son caractère, combien il a été bon pour l'homme qui lui avait causé un si grand chagrin. Et je pense à ma femme. Ce matin, elle m'a semblé plus belle et plus désirable que jamais. Je ne sais si vous avez ressenti du mépris pour vous-même lorsque, seul détenteur d'un lourd secret, lorsque, chargé de vices et de laideurs, paraît devant vous l'être auprès de qui vous avez toujours vécu, intact et pur. Comme cet être est beau alors, et comme on se sent peu digne de lui! Avec quelles forces immenses on peut regretter le mal que l'on a fait! On se jure de ne jamais plus recommencer, et si, par une faveur du ciel, on a seulement frôlé les conséquences d'une faute, on a échappé au châtiment, avec quelle allégresse on se rapproche de cet être que l'on aime. Mais cette joie passe, l'ennui vient, et il nous faut quelque chose de nouveau. Qu'il est dangereux d'être un homme! Avec quelle sincérité, quand on est au fond du gouffre, on peut regretter son bonheur perdu! Mais avec quelle légèreté, quelle insouciance, on le compromet! Si je puis faire un vœu, c'est celui d'être toujours assez maître de moi pour ne rien risquer dans l'avenir, pour ne jamais céder à la tentation et pour toujours demeurer digne de la femme que j'aime. Et au moment où je fais ce vœu de tout mon cœur, de toutes mes forces, je songe que Chambige est toujours vivant et que peut-être tout à l'heure, peut-être demain, il dévoilera tout.